Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
At the happy hour. At the happy hour.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez 48 FM, il est 12h30 tapante, souriez, c'est l'heure de la Happy Hour. Alors le soleil est au rendez-vous aujourd'hui et ça tombe bien parce qu'on reçoit la compagnie lozérienne de théâtre et de clown 1, 2, 3 Soleil. Alors Soleil avec un S, je suppose que c'est important de le souligner. On laissera nos deux invités nous dire pourquoi. On va se contenter pour notre part de les présenter. Nous recevons aujourd'hui Coraline Houdard, clown et comédienne ainsi que chargée de production auprès de la compagnie et Serge Lacan, comédien, directeur artistique de la compagnie 1, 2, 3 Soleil. Bonjour à tous les deux, bienvenue.
Bonjour,
merci 48 FM.
À mes côtés également, pour animer cette émission, nous avons deux chroniqueurs, Cyril et Ludovic. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Serge Lacan, on va commencer avec vous, puisque c'est vous qui êtes à l'origine de cette compagnie, 1, 2, 3 Soleil, que vous avez fondée il y a tout pile 20 ans, c'était en 2002. Est-ce que vous pourriez nous expliquer alors pourquoi ce S à Soleil ?
Ah, on commence par ça alors.
Pourquoi
ce S à Soleil ? Je pourrais dire aussi pourquoi 1, 2, 3 Soleil, pourquoi la compagnie s'appelle comme ça ?
Exactement.
Donc je suis revenu, puisque je suis lozérien, je suis revenu en Lozère en 2002. Et auparavant, j'ai passé 10 ans en Picardie, et où il y a du soleil aussi, hein, ça arrive.
Dans les cœurs, plus que dans le ciel.
Ça, ouais. Et en fait, juste avant de partir, j'avais travaillé avec un groupe de comédiens là-bas en Picardie sur le film 1, 2, 3 Soleil. On avait retravaillé, qui est un film de Tavernier, et on avait travaillé là-dessus. Et ce travail m'avait complètement illuminé, m'avait donné aussi de la force pour continuer à faire ce métier. Et puis aussi parce que j'ai 3 enfants. Et aussi parce que pour moi, le théâtre, c'est avant tout du jeu. C'est avant tout du jeu. Et alors, on peut l'écrire de différentes façons, le jeu. Mais pour moi, ça dit ça. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas, prendre ce nom-là. Qui est un jeu pour enfants, hein, 2, 3 Soleil, c'est un jeu pour enfants. Et pourquoi pas prendre ce nom-là ? Et pourquoi un S à Soleil ? Parce que les soleils, ils sont multiples. Les soleils, ils sont multiples. Chaque personne, comme disait Albert Jacquard, chaque personne est une lumière. Voilà. Et donc, il y a des multiplicités de lumières dans la vie, dans le théâtre, mais aussi dans la vie. Et donc, voilà, c'est pour ça que les soleils, ils sont multiples. Il n'est pas unique.
Et vous, Coraline, vous avez rejoint la compagnie à quel moment de ses débuts, un peu plus tard ?
Moi, ça fait tout pile 10 ans.
Tout pile 10 ans.
Voilà, je suis arrivée aux 10 ans de la compagnie. Je suis arrivée en Lozère pour une mutation professionnelle de mon conjoint. Et j'ai très rapidement cherché du travail. J'ai rencontré la compagnie 1, 2, 3 Soleil au Forum des associations en septembre. Et à ce moment-là, la personne chargée de l'administratif quittait la compagnie. J'ai laissé mon CV. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans la compagnie.
Voilà. Entendu. Avant de revenir en Lozère, Serge Lacan, dont vous êtes originaire à la Lozère, c'est donc d'abord, vous l'avez dit, en Picardie que vous avez fait vos premières armes en tant que comédien professionnel. Est-ce que c'était indispensable pour vous de revenir dans vos terres natales ?
Non, pas du tout.
Et pourquoi ?
Pas du tout.
Alors pourquoi être revenu ?
C'est des histoires plus personnelles et familiales qui ont fait que je suis revenu en Lozère. Je ne regrette pas parce que j'ai vécu et je vis des choses au travers de ce métier magnifique, mais je me sentais très bien en Picardie. Voilà, c'est une compagnie qui m'a ouvert ses portes et qui m'a permis de faire, comme vous disiez, mes premiers pas en tant que comédien professionnel. J'ai aussi touché au cinéma parce qu'il y a la proximité de Paris qui fait que voilà, il y avait des choses possibles là-bas. Voilà, mais c'est pas. Oui, j'aurais pu rester là-bas. J'y ai trouvé de la liberté. J'ai aussi rencontré des personnes magnifiques. Il y en a aussi à Lozère, bien sûr. Mais quand on est lozérien, quand on est lozérien, ça fait du bien de partir ailleurs aussi. Mmh. Et de s'enrichir d'autres expériences, d'autres lumières, etc. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'arrive très rapidement à voir les lozériens qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis.
Sur quels aspects ?
Sur les idées, sur l'ouverture d'esprit, sur plein de choses comme ça. Oui. Sur des idées politiques aussi. Oui. Je pense que mes enfants sont partis de Lozère. Peut-être ils reviendront un jour. Et je suis content qu'ils soient partis, qu'ils aillent s'enrichir ailleurs, même dans d'autres pays, etc. Et, et de passer. Mais je pense que de plus en plus, les gens qui habitent en Lozère ou qui sont originaires de Lozère partent, notamment les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui partent et je trouve ça très bien. Voilà.
Du coup, quand vous êtes revenu il y a 20 ans, quelle était la situation au niveau des arts de rue en Lozère, des arts de cirque? C'est peut-être pas une question à poser ou...
Si. Alors, je suis ravi de pouvoir parler de ça. Quand je suis venu en Lozère et que j'ai décidé de monter ma compagnie, j'ai rencontré tous les acteurs culturels de Lozère et je ne me suis pas senti forcément très, 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 très bien accueilli. Voilà. Il y a une compagnie qui m'a, je peux la citer, l'Armine de Rien, Bruno Alloer, qui m'a dit bienvenue. Et j'ai pas senti ça chez les autres qui étaient présents. J'ai pas senti ça chez les Scènes Croisées. J'ai pas senti ça dans d'autres compagnies.
C'était fermé.
Comme si je venais piquer une part du gâteau. Alors que moi, je revendique le fait que c'est vachement bien qu'il y ait de plus en plus d'artistes qui s'installent à Lozère et qui nous enrichissent, quoi. C'est comme ça que tout grandit, quoi. C'est par l'enrichissement. Ouais, j'ai pas senti un très grand accueil. Oui.
Mais je pense que ça l'est toujours, c'est vrai que ça reste quand même un milieu concurrentiel, on le voit notamment dans les grands festivals où chacun essaye de trouver des dates, de tirer la couverture à soi, alors que quand on parle de culture, on imagine complètement l'inverse.
Absolument, je suis complètement d'accord avec ça, ouais. Je crois qu'il y a un travail à faire là-dessus et on n'a pas, enfin, j'ai pas à être frileux de l'autre différent qui arrive et qui va venir faire du théâtre, du clown, de la musique ou autre chose. Oui, je pense que... Ouais, bienvenue, bienvenue. C'est un mot essentiel, bienvenue.
Et vous, Coraline, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le projet de la compagnie 1, 2, 3 Soleil? Est-ce que déjà vous venez de Lozère, vous d'ailleurs?
Non, pas du tout. Moi, j'ai aussi bougé, mais ce que disait Serge pour les Lozériens, je pense que c'est valable pour tout le monde. C'est bien de bouger à un moment donné dans sa vie et de s'ouvrir à d'autres choses quand on en a la possibilité. Voilà. Et quand je suis arrivée en Lozère, j'ai fait mon petit travail de fourmi, j'ai pianoté sur Internet, regardé un peu tout ce qui se présentait au niveau théâtral. Et c'est en lisant des textes que Serge avait écrits sur le site internet de la compagnie, tout simplement la façon qu'il avait de parler du théâtre pour les gens, par les gens, enfin voilà, quelque chose de... Je sentais quelque chose, l'humain derrière tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans le spectacle vivant, avant tout, bien évidemment, c'est l'humain et comment on va à sa rencontre. Donc voilà, je suis relativement très vite tombée, mais je peux le dire comme ça, tombée amoureuse de la compagnie et de ce qu'elle proposait. Et j'ai commencé par rejoindre les ateliers théâtre de Serge en tant qu'amateur. Voilà, et j'ai fait mes premiers pas comme ça au sein de la compagnie. Après, du théâtre, j'en ai toujours fait. Et très rapidement, Serge m'a intégrée dans l'artistique, voilà, dans la compagnie.
Du théâtre par les gens, pour les gens, c'est ça la marque de fabrique d'un autre soleil?
Oui, vas-y.
Oui, c'est
la marque de fabrique, mais bon, il y en a d'autres. Donner. Pour moi, le théâtre, c'est un outil. C'est un outil à mettre entre toutes les mains, dans tous les cœurs, quoi. Et notamment à l'école. Je pense que très tôt, les enfants devraient faire du théâtre. Alors, quel qu'il soit, le théâtre, il y a différentes façons de faire du théâtre. Et il n'y a pas de vérité. Ça aussi, c'est hyper important à dire. Et que je pense qu'il y a certaines personnes ou certaines instances qui pourraient dire qu'il y a un vrai théâtre et puis qu'il y a un faux théâtre, un théâtre... voilà. Et que le théâtre, il est multiple, encore une fois. Et que le mettre entre toutes les mains. Et notamment, par exemple, si je peux parler de ça... moi, je travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap. Ça a été une révélation pour moi de rencontrer ces personnes-là et de travailler avec. C'est là où j'ai vraiment vu que le théâtre était fait pour tout le monde et que tout le monde pouvait utiliser cet outil-là pour exister, pour être debout, pour exprimer ce qu'il a en lui. Voilà. Et les personnes soi-disant différentes ou voire plus inférieures, quand elles se saisissent de cet outil-là, ça devient magnifique. Moi, ils me font... Ces personnes-là, au travers de l'activité théâtre, me font rencontrer ce que je suis moi, d'abord. Mon humanité à moi, mes défauts, mes faiblesses, mes impossibles, mes vides, tout ça. Parce que je rencontre les leurs. Et ensemble, il y a quelque chose qui se crée, quoi. Voilà. Mais pour ça, il faut créer un cadre. Il faut qu'il y ait un cadre dans lequel la personne se sente en confiance, se sente libre,
Et cette volonté donc d'insister sur l'aspect populaire de votre théâtre, est-ce que ça veut dire aussi que pour vous, aujourd'hui, le théâtre tel qu'il se pratique, il s'est un peu éloigné peut-être des gens, du quotidien des gens?
Alors, je réponds. Je pense pas. Je pense qu'il y a... il y a des fenêtres où il y a des projecteurs qui sont mis par les médias beaucoup plus sur le théâtre, on va dire, n'est-ce pas, le vrai théâtre.
C'est-à-dire lequel,
le
parisien,
théâtre intellectuel, le théâtre élitiste, le théâtre où on ne comprend pas forcément, hein, et qu'on voit toujours un peu les mêmes, hein, que ce soit pour le théâtre, pour le cinéma, pour tout ça. Mais le théâtre populaire, moi je revendique aussi ce mot qui n'est pas du tout péjoratif et qui pourrait être considéré comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a des choses magnifiques en Lozère, comme dans toute la France, quoi. Et je pense qu'il y a de plus en plus, si on prend ma formation de départ, moi, ça a été le théâtre de rue. Et le théâtre de rue, il y a des choses exceptionnelles qui se passent et qu'on peut voir dans les festivals en Lozère, entre autres, et qui est à la portée de tout le monde, quoi. Parce que le théâtre, comme la littérature, par exemple, ça parle des gens. Et donc, alors, des fois, il faut des clés, et j'entends ça, que des fois, il faut des clés, qu'il faut faire, en tant que spectateur, faire un effort pour entrer dans l'univers proposé, voilà. Mais ouais, moi, je revendique ça, je revendique que le théâtre, c'est pour tous, et ça se fait avec tous. Moi, dans mes cours de théâtre, etc., il y a toutes sortes de gens qui viennent, des jeunes, des vieux, des handicapés, des Français, des pas Français, etc. Et c'est tout ce multiple-là qui fait la richesse et du théâtre et de la vie.
Vous venez de lancer un regard vers Cyril, et justement, ça va être à son tour, puisque je peux le préciser, Cyril fait aussi du théâtre dans votre compagnie. Alors Cyril, tu vas nous parler cinéma aujourd'hui pour ta chronique, on t'écoute.
Tout à fait, donc voilà, pour cette reprise de l'Happy Hour, j'avais à la base l'intention de vous parler d'un livre, mais finalement j'ai fait une découverte ce week-end qui m'a fait faire table rase et m'a fait repousser ce sujet sûrement à la prochaine émission. Donc cette découverte, c'est le film Everything Everywhere All at Once. Bon, désolé d'avance pour l'accent qui n'est pas parfait. Et c'est un film qui est actuellement au cinéma, qui vient tout juste de sortir, et que je vais donc vous conseiller très grandement. C'est donc un film américain qui est réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, j'espère que je prononce bien, qui mélange comédie d'aventure et science-fiction, et qui nous présente la vie pleine de soucis quotidiens de Evelyn Kwan Wong, et qui tient une laverie avec son mari Waymond. Donc, entre les impôts qui leur apportent des tracas, son mari qui est gentil, mais justement, il est gentil, quoi. Et en plus, il veut divorcer. Il y a son père qui vient s'installer à la maison. Il y a sa fille qui essaie désespérément de lui faire accepter son homosexualité. Bref, avec tout ça, Evelyn, elle est complètement perdue. Elle ne sait même plus où elle va et elle devient de plus en plus absente dans sa propre vie. Et c'est donc lors d'un rendez-vous chez une inspectrice des impôts que tout va partir à la dérive, mais vraiment très très vite. Son mari, dans l'ascenseur du rendez-vous, il change d'un seul coup complètement de personnalité pour devenir beaucoup plus sûr de lui, très mystérieux. Et il annonce qu'un être d'un autre univers s'apprête à détruire non seulement son monde, mais aussi tous les mondes existants. Parce que le pitch du film repose donc sur cette histoire d'univers parallèle, ou comme on dit, de multiverse. Ou en gros, pour faire simple, chaque décision qu'on prend crée un nouvel univers avec du coup toutes ces conséquences qui impactent plus ou moins brutalement la vie de chacun. Et donc Evelyn, elle peut entre autres voir dans ses autres vies où elle est devenue par exemple chanteuse ou elle est devenue championne de kung-fu ou ce genre de choses. Enfin, c'est complètement barré. Et Evelyn va donc entrer dans ce conflit mêlant histoire familiale, bon spatio-temporel, et essayer en même temps de résoudre un petit peu ses propres traumas non résolus. Bon, je vais être honnête avec vous, au moment où j'ai écrit ma chronique, à ce moment-là, je me suis retrouvé devant une grosse page blanche. Parce que résumer Everything Everywhere en 2 minutes, c'est impossible en fait. Le film dure 2h15, et il se passe beaucoup... mais beaucoup de choses. Et c'est tout plus ou moins illogique, d'ailleurs. Mais ce que je trouve incroyable dans ce film, c'est que si au début, pendant les 30 premières minutes, je comprenais absolument pas où le film voulait m'amener, bah, au final, il devient parfaitement logique tellement c'est absurde. Il y a une sorte de logique dans l'illogique. C'est un concept très sympa. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment très frais, très drôle, c'est innovant. Puis il y a des moments quand même vachement touchants aussi, j'ai adoré, et même si je suis tout bonnement incapable de vous en faire un résumé. En fait, je pense tout simplement que c'est un film qui est plus à voir que vraiment à expliquer, Et si tel que je vous le raconte là, on dirait que c'est un film prise de tête, détrompez-vous, parce que finalement, le message de Everything Everywhere, c'est bah, que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bah, finalement, c'est pas grave, on s'y fait. Et d'ailleurs, les critiques du film vont plutôt dans ce sens-là, parce que les quelques-unes que j'ai vues, bien qu'intriguées, elles sont généralement plutôt élogieuses. Alors donc, je vous conseille de pas tarder. Si vous voulez passer un bon moment bien délirant et que vous voulez passer un moment sympa entre amis, c'est vraiment un film qui est fait pour vous. J'espère vous avoir donné envie de regarder ce film, en tout cas.
Merci Cyril. En effet, ça avait pas l'air très très simple de résumer tout ça, mais tu t'en es plutôt bien sorti, je trouve, en tout cas pour une première depuis la rentrée.
Merci beaucoup.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'Happy Hour sur 48 FM. Nous recevons aujourd'hui Coraline Houdard et Serge Lacan de la compagnie 1, 2, 3 Soleil. Alors, on va un peu plus maintenant entrer dans vos actualités, ce que vous faites au quotidien dans cette compagnie. Et on va parler notamment de ces fameux cours et ateliers de clowns et de théâtre que vous proposez et dont Cyril, je le répète encore, bénéficie également. Donc, vous proposez des cours qui ont repris là depuis le 19 septembre dernier de théâtre. Les cours de clowns vont reprendre dès ce week-end là, ce samedi. Et donc, j'aurais aimé savoir déjà qu'est-ce qui différencie ces deux approches, ces deux disciplines. Lequel des deux se lance ? Serge ?
Ah, Corinne, elle veut pas.
Hein. moi, je veux bien et surtout dire des bêtises. Si je dis des bêtises, c'est super. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Cyril, là.
Je vous en prie.
Par rapport au film que j'ai pas vu, hein, et, si on comprend pas tout, c'est pas grave. Voilà. Et je trouve que ça pourrait être ça aussi, une des couleurs de la compagnie, de revendiquer ça. Parce qu'il y a ce côté un peu élitiste dans lequel encore on peut enfermer l'art en général. Je comprends pas, je vais voir un tableau de peinture, je comprends pas, c'est pas pour moi. Mais c'est tout ce travail qu'on a à faire, nous, dans nos ateliers, dans nos spectacles, etc. C'est de dire, d'exprimer ça, je comprends pas, mais je me laisse pénétrer par l'émotion qui peut arriver. Même si c'est pas celle qui devrait être la bonne émotion, quoi. Mais c'est ça, l'art, ça doit servir à ça. C'est de donner la possibilité aux gens de laisser aller leurs propres émotions. Qui sera, si on regarde un film ensemble ou si on voit une pièce de théâtre ensemble, on n'éprouvera pas forcément les mêmes émotions. Et c'est, voilà, c'est pas enfermé. L'art ne doit pas enfermer. Et je pense qu'à un moment donné, il a servi à enfermer les gens et à contrôler les gens aussi.
C'est un peu le problème aussi de l'art contemporain, où des fois on attend une explication avant une production, où il faut expliquer son œuvre, alors que la sensibilité fait qu'on peut aimer ou pas une œuvre sans en avoir à comprendre la signification pour se demander si on l'aime.
Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Mm. Alors, pour répondre à la question qui était...
Quelle est la différence d'approche entre clown et, oui, et théâtre ?
Alors, le clown, pour moi, je parle que de ma place, le clown fait partie du théâtre. C'est une des disciplines, on va dire, du théâtre. Ouais, voilà, pour moi, ça, voilà. Ce qui peut faire la différence, c'est peut-être dans le travail, dans la posture du clown. Le clown, il va être plus en relation avec le public. C'est-à-dire, le public va être son partenaire. C'est-à-dire, il peut prendre à partie le public, il peut se servir, entre guillemets, du public pour être en communion, en relation. Alors qu'au théâtre, même si des fois dans des mises en scène, le personnage peut être en relation avec le public, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le quatrième mur. Hein. Au théâtre, il y a un quatrième mur qui fait qu'il n'y a pas de relation directe, même si, quand on joue, je vous assure que le public, on le sent, même si on ne le regarde pas. On sent sa respiration, on sent plein de choses, des choses qu'on ne peut pas contrôler, et c'est très bien. Voilà, ça, c'est une des premières différences. Le clown, il fait péter le quatrième mur. Ça, c'est, voilà, c'est une des premières choses. Après, le clown, il va peut-être travailler plus. Alors, il y a la question du personnage, bien sûr. Le clown, c'est un personnage, mais ce personnage, il évolue. Mais le personnage du clown, il part de ce qu'est la personne, de la singularité du comédien. Voilà, c'est ça part de là.
Et donc, c'est ça que vous essayez aussi de faire ressentir à vos élèves ?
Absolument, ouais, absolument. Ouais, le travail du clown, c'est un travail difficile. Il va chercher en profondeur, quoi. Qu'est-ce qui se remue, qu'est-ce qui se travaille, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur, quoi. Voilà.
Et
ce qui ne veut pas dire, pardon, que dans le théâtre, ça, on ne travaille pas ça. Mais peut-être que le clown, il va plus en profondeur. Voilà. Parce que dans le travail du clown, il n'y a pas de résultat escompté. C'est-à-dire que je parle dans la formation du clownet, de ce personnage-là. C'est tout ce qui va se passer pour la personne, pour travailler sur sa singularité, sa disponibilité à la vie. Le clown, je dis souvent, c'est un feignant, il fait rien. Il fait juste que recevoir. Et ça, c'est une sacrée école de la vie.
C'est bien ça, oui.
Et dans le monde, si on élargit un peu le spectre, qu'on sort juste de la Lozère et même au-delà de la France, est-ce que le clown est pratiqué?
Par exemple, la Chine.
Par exemple, la Chine. Si vous avez un exemple précis en tête, dites-le nous.
Mais
est-ce que le clown est universel, oui, ou est-ce que dans... J'ai appris dernièrement que la langue des signes, ben, chaque pays avait sa langue des signes. Alors moi, je pensais que c'était international. Est-ce que le clown, c'est pareil? Est-ce que le clown, c'est universel dans tous les pays ou chaque pays a ses propres particularités?
Alors, je répondrai pas. Je peux répondre que sur ce que je connais. J'ai été en Afrique, moi, plusieurs fois. Et j'ai participé à des stages de théâtre en Afrique ou même en Tunisie où j'allais travailler avec des étudiants tunisiens. Et j'avais un peu peur, moi, d'introduire le clown. Vous savez, comme une espèce de colonisation artistique au travers. Voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis aperçu que, par exemple, en Afrique, alors, qui a importé, j'en sais rien. Si c'est des Européens, mais il commence à y avoir des pratiques clownesques. Et j'ai pu aussi, en Afrique, me rendre compte, en allant puisqu'on vivait dans un petit village, et j'ai rencontré des griots, qui ont un peu cette fonction aussi du clown, le clown qui est un peu le naïf, qui est un peu celui qui va dire ou poser des questions que personne n'ose poser. Et le griot a un peu cette fonction en Afrique, voilà. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de clowns, mais qui sont des clowns... je crois qu'on appelle ça des paillasses, je crois, des paysans, parce que le clown, ça a à voir avec ça, avec le simple, avec le rustre, avec le naïf. Il y a des clowns, mais qui sont beaucoup plus, démonstratifs. Voilà, ça va être très, 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 très démonstratif. Ils en font des caisses. Voilà. Et que peut-être en Europe et en France, on travaille beaucoup plus sur le sensible, sur l'intime, même si après ça peut péter, hein. Mais ça part de là, quoi. Voilà. Et après, aux États-Unis, oui, il y a des clowns. Et il y a eu notamment Dr. Patch qui a introduit le clown à l'hôpital. Ce qu'on pratique aussi, nous, en Lozère.
Finalement, la base est la même. Et de cette base...
Oui, c'est ça. Ouais. Ça part de l'humain. Ça part du fondement de chacun, de notre humanité. Ouais. Et avec des cultures différentes, bien sûr.
Je propose une petite pause musicale avant de poursuivre sur cette réflexion autour du clown notamment, mais aussi sur vos activités de manière plus large. On se retrouve d'ici quelques minutes. We'll be right back. Vous écoutez toujours 48FM, c'est l'heure de l'Happy Hour. Nous sommes en compagnie de la compagnie 1, 2, 3 Soleil, ainsi que de notre chroniqueur Cyril et Ludo. Alors, on poursuit sur les activités de la compagnie. Déjà, on voulait faire aussi, comme c'est la rentrée, un petit tour d'état des lieux. Il paraît que vous avez beaucoup d'inscrits cette année. C'est vous qui me le disiez tout à l'heure, Coraline. Vous êtes combien, alors ?
Alors, on est combien ? On n'a pas encore finalisé les comptes, mais il y a plusieurs ateliers qui sont ouverts au tout public. On a un atelier enfant et un atelier adulte sur Barjac. Pour le moment, on est à une vingtaine enfants et adultes. On a un atelier et trois ateliers sur Mende, enfants, ados et adultes. Alors, adultes, il me semble qu'ils sont une quinzaine. Ados, bah, pareil, une quinzaine. Et enfants, on se demande même si on ne va pas faire de groupe parce qu'on arrive à 17 enfants. Ça fait vraiment beaucoup. Voilà. Donc, c'est une très, très belle rentrée. On sent que les années Covid sont passées par là et que les gens ont envie de redémarrer quelque chose. Et ça nous fait du bien d'être à nouveau ensemble. Vraiment, c'est ça qui est enthousiasmant quand on reprend, c'est de voir les gens au rendez-vous et qui prennent plaisir, qui ont envie d'être là et qui vont à fond. Et voilà, c'est un vrai partage, un vrai bonheur. On a à peine commencé, on n'a eu que 2-3 cours, mais déjà, enfin, c'est quelque chose qui redémarre et c'est très plaisant.
D'ailleurs, je le précise, pour si jamais il y a des intéressés qui nous entendent, mais les deux premiers cours sont, c'est pour tester.
Sont gratuits, c'est ça.
Ouais.
17, 18, 20, c'est beaucoup sur un cours. Hein. Faut s'y tenir, je parle au professeur.
Oui, c'est beaucoup, mais c'est vivant, quoi. C'est ça, voilà. Ouais, c'est là, il y a 15 jours, on a animé un stage, Coraline et moi, avec des BTS tourisme au lycée Chaptal. C'est un rendez-vous qu'on a chaque année avec le deuxième année de cette formation. Ils étaient 22. On en a eu des fois jusqu'à 30,
oui,
je
30,
crois.
Oui.
Voilà. Et on se dit chaque fois, est-ce qu'on va y arriver ? Et en fait, ça se fait. Hein, ça se fait.
Oui.
Voilà, on travaille différemment que s'ils étaient 5 ou 6 ou 7. Mais ça se fait, oui.
Et est-ce qu'il y a autant d'engouement pour le cirque que pour le théâtre, ou il y en a un qui est préféré à l'autre ?
Le cirque ?
Le clown.
Ça, bon, c'est intéressant.
Oui, ah. Mais je voulais rebondir d'ailleurs plus tard dessus. Voilà, je me suis auto-sabordée.
C'est quoi la question ?
Autant d'engouement pour les ateliers de clown que de théâtre ?
Alors, il y a beaucoup plus de gens au théâtre, parce que le clown, justement, votre lapsus, il est intéressant. C'est qu'on cantonne souvent le clown au cirque. Voilà, au cirque. Ou alors, ce que moi, j'appelle le clown McDo, c'est-à-dire le clown qui tarte à la crème, le clown qui gonfle des ballons, etc. Alors que le clown, c'est un vrai travail en profondeur, quoi, sur la personne, sur l'intime. Il y a aussi... moi, j'avais débuté une formation de clown thérapeute à Paris, qui s'est arrêté à cause du Covid et que je reprendrai sûrement. Voilà, c'est un super outil pour travailler sur la personne, hein, pour travailler sur, comment dire, ouais, c'est un mot que j'emploie beaucoup en ce moment, sur la singularité, quoi, sur la couleur propre de chacun de nous, quoi. Voilà. Le clown, c'est comme un projecteur qui vient dire, ben voilà, t'existes, t'as ça et t'as ça. Alors, il n'y a pas que des belles couleurs, hein. Et les soleils, des fois ils sont voilés, des fois ils sont un peu sombres. Mais c'est travailler avec tout ça. Et quand on met ça au service de la création, ça devient magnifique. Voilà.
Ça.
Donc ça fait plus peur. Ce travail-là fait beaucoup plus peur que le travail de théâtre, qui peut être considéré comme quelque chose de beaucoup plus de loisir, de venir, on va déconner, on va, etc. On va, voilà. Mais c'est pas que ça, bien sûr, le théâtre, bien entendu.
Et c'est peut-être aussi lié à la mauvaise réputation que traîne le clown depuis quelques années, je sais pas si on peut parler même de siècles, parce que le clown, c'est un personnage à double tranchant, il est à la fois là pour faire rire, mais son sourire, qui est toujours là ancré, il peut aussi effrayer. Il suffit de convoquer la figure du Joker qui a encore fait débat il n'y a pas si longtemps que ça. La faute à qui, selon toi, Ludo, si le clown n'est pas toujours bonne réputation ?
La faute à qui ? La faute au clown, au pluriel, pardi. Serge Lacan, vous proposez des ateliers de théâtre, des ateliers de clown, des pièces de théâtre, un festival de clown. Alors je vais plutôt m'attarder dans cette chronique sur le clown, non pas qu'il en fleurisse pléthore en ce moment, ne me faites pas parler de politique, Serge Lacan. Même si, question clown, on est plutôt bien loti et pas qu'en France. Je ne vais pas parler des clowns cyniques proches du bouffon, car nous avons, monsieur Lacan, en France, ce qui s'appelle la présomption d'innocence. Et oui, messieurs Abad, Bayou, Catenens, Hulot, Baupin, Strauss-Kahn, Tron... Strauss-Kahn, non pas lui, et il a été officiellement abandonné, les charges. Bref, nous avons pléthore de clowns. Les journalistes aussi ont leur lot de clowns. PPDA, Pierre Ménez, Hulot, encore lui, Bourdin. Après, là, je vous parle de clowns tristes, du moins qui me rendent triste, car il y a aussi des clowns drôles. Car généralement, le clown doit être drôle, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Abad, Bayou, Catenens, Hulot, Baupin, Tron, Strauss-Kahn, non pas Strauss-Kahn, J'aime bien le comique de répétition, vous l'aurez compris. Mais nous avons aussi des clowns internationaux, nous en avons dans tous les pays. En Russie, en Biélorussie, en Hongrie, en Italie, en Corée du Nord, en Chine, au Brésil, aux États-Unis. Non, lui, il a été viré. Bref, je vous le disais, pléthore de clowns. D'ailleurs, il existe différents types de clowns. L'auguste, le clown blanc, l'excentrique, le contre-pitre. Alors celui-ci, je l'aime bien parce que ça me fait penser à contre-pétri. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas finir cette chronique en contre-pétri. Je reviens plutôt à vous, Serge Lacan, vous qui donnez des cours de théâtre et de clown. Quel beau métier, professeur.
Waouh.
Et quel courage d'apprendre à devenir un clown, lui qui est vilipendé, qui est souvent représenté comme un personnage maléfique dans les films. Car le clown peut faire peur. J'ai une collègue dont je tairai le nom, qui est journaliste à 48FM et qui, en préparant cette émission, me disait justement « Le clown me fait peur ». C'est vrai que de se retrouver avec un clown nu sous un peignoir dans un hôtel new-yorkais, suivant le personnage, ce n'est pas forcément plaisant. Bref, pour finir autrement qu'en contre-pétri, je citerai ce grand acteur comique de comédie populaire du nom de Sim qui a accompagné ma jeunesse et qui disait « Quand j'étais jeune, je voulais être ministre ou clown, j'ai choisi la deuxième option car je suis un garçon sérieux.
Ouais. » Wow. très beau. Ouais, wow. Superbe.
Merci. Bravo. Merci Ludo pour cette chronique. Alors est-ce que vous l'avez compris? Moi je ne l'ai pas capté tout à l'heure, la contre-pétrie qu'il vous a faite.
Ah, mais moi je suis nulle en contre-pétrie, je ne les trouve jamais.
En plus il n'y a que des contre-pétries, ça là. Alors pour en trouver une... Mais ça, on réécoutera l'émission.
On ralentit.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, Serge Lacan, pour leur défense à ces clowns? Parce que d'ailleurs, vous en avez parlé d'ailleurs dans cet entretien. Vous êtes l'exemple même que les clowns ont aussi une valeur sociale. Ils œuvrent pour la bonne cause, puisque vous avez travaillé notamment pendant 10 ans auprès de l'association Clowns Hôpitaux, auprès des malades, des personnes âgées dans les EHPAD. Qu'est-ce que vous diriez là pour répondre à Ludo?
Oui, d'abord je trouve ça magnifique son texte. C'est vrai qu'on dit souvent c'est des clowns, en parlant des politiques, etc., ou des gens qu'on trouve nuls. Mais là, les gens dont il a parlé, ils sont pas que nuls, ils sont dangereux. Hein, ils sont très dangereux. c'est ça, c'est cette lutte qu'il faut mener aussi, c'est de redonner un titre de noblesse aux clowns. Voilà, de lui donner, et ce que dit Sim, c'est magnifique. Mmh. Voilà. Moi, quand j'étais petit, ma maman, j'habitais un petit village au Monastier, un village qui est à côté de Marvejols, et il y avait beaucoup de cirques qui passaient à l'époque à Marvejols, et notamment le cirque Pender, où c'était la piste aux étoiles qui était télévisée, etc. Et elle m'amenait voir le cirque. On faisait 6 km à pied, et 6 km à pied, retour. Voilà. Et j'avais une trouille mais monumentale des clowns. Mais en même temps, ça m'attirait beaucoup. Ça m'attirait cette espèce de peur et à fois d'attirance. Voilà. Et moi, je dis souvent à mes élèves, si t'as peur, va y voir. Va y voir. T'es pas obligé d'y rester, mais va y voir, quoi. Et que des fois, les peurs qu'on a ou les appréhensions qu'on a par rapport aux clowns, par exemple, ben c'est d'aller y voir. Je me rappelle, par exemple, à une maison de retraite où on intervenait. On s'est fait virer, voilà. Moi, je me suis fait virer déjà de plusieurs maisons de retraite. Hein. C'est un titre de noblesse, ça aussi. Parce que les gens ne comprenaient pas le sens qu'il y avait. Ils attendaient à ce qu'on gonfle des ballons ou qu'on fasse des grosses bêtises, etc. Alors que, je vais revenir à ce que je voulais dire, hein. Le clown qui intervient en maison de retraite ou à l'hôpital, c'est avant tout un clown relationnel. C'est celui qui va permettre à l'autre d'exister. C'est-à-dire autrement que dans sa maladie, dans sa vieillesse, dans son handicap, etc. C'est juste lui ouvrir un espace de parole. Un enfant qui vous dit, quand vous rentrez dans sa chambre, qui vous dit « je ne veux pas vous voir », ben c'est super. Il a la possibilité de pouvoir dire, d'avoir une posture et singulière. Alors qu'il va subir plein de soins, plein de choses comme ça, etc. Voilà. Et donc, dans cette maison de retraite, il y avait une aide-soignante qui se mettait en congé chaque fois qu'on venait, tellement elle avait peur des clowns. Voilà. Et on n'a jamais pu, j'ai jamais pu avancer avec elle parce qu'elle n'était jamais là. Mais ça me rappelle quelqu'un d'autre aussi qui avait peur des clowns et qui est venu à un stage que j'animais, qui est venu pour voir pourquoi elle avait peur. 6 mois après, elle était sur scène avec moi dans un spectacle de clowns. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien d'aller voir, quoi. D'aller voir. Il ne faut pas l'imposer, bien sûr. Il n'est pas question de mettre une Kalachnikov, de dire « vas-y ». Mais voilà. Et pour revenir à ton texte... Ouais, on enferme les nuls et les clowns, c'est pas la même chose, quoi. les nuls, les fachos, parce qu'il s'agit de ça, des mecs qui respectent pas la vie, c'est pas le clown il respecte la vie. Et c'est ça qu'il faut qu'on refasse ressurgir, quoi. Que et le clown, c'est avant tout ce que tu as en toi et cette liberté que tu peux prendre avec ce que tu as en toi.
Pourquoi vous dites refaire ressurgir? Parce que ça a disparu. Est-ce que la place du clown a évolué et mais du coup est devenu has-been? Est-ce qu'on peut dire ça que
dans le langage commun, faire le clown ou c'est un clown, c'est politique, c'est des clowns, c'est très péjoratif, quoi.
C'est une insulte. Ça a été une insulte à un moment. Ah, maintenant, on est passé à autre chose. Mais oui, tu es un clown.
Oui, absolument. Mm. Ouais, ouais. Ou même à l'école, hein, arrête de faire le clown, quoi. Donc continue.
Surtout à l'école, surtout à l'école. Je peux le dire, mon fils n'écoute pas à cette heure-là.
Et après, pour revenir sur la peur, c'est vrai que un peu comme les requins avec Spielberg, les Dents de la Mer, qui a où il y a eu des milliers d'enfants qui ont eu peur de se baigner après. Peut-être que le Stephen King avec ça, tous ces films autour du clown maléfique, c'est une figure qui est montée par le cinéma.
Oui, mais c'est ce qui est fou, c'est qu'en fait c'est peu d'œuvres qui parlent du clown dans ces termes-là, et c'est ça qui prend le dessus.
Oui.
Voilà. Alors que des expériences clown, des projets clown en France, il y en a des tas, des tas, des tas, et des magnifiques choses. On le voit dans le festival de clown qu'on organise, du côté de la poésie, du côté de choses très, très, très belles, quoi. Et que ça, on le tait, ou en tout cas, on le montre peut-être pas suffisamment, parce que c'est comme les informations, on montre que ce qui va pas, hein, alors qu'il y a de super belles choses qui se passent chez nous, quoi. Voilà. Mais ça fait c'est moins vendeur, peut-être. Parce que je pense qu'on est plus, aujourd'hui, dans notre société, voire dans notre civilisation, on est plus du côté du facile que du côté de l'exigence. Voilà. Et que les choses toutes simples, enfin toutes simples, pardon, c'est pas le bon mot, les choses
caricaturales, peut-être.
Ouais, voilà, passent plus facilement parce que ça demande un effort. C'est plus difficile de regarder peut-être la grande librairie ou que le reportage sur TF1. Mmh. Voilà.
Serge Lacan, toujours vous. On va parler un peu de votre formation puisque vous avez été formé donc à la fois au théâtre de rue, à la mise en scène, au clown donc, mais vous avez aussi suivi plusieurs formations de marionnettes et de contes.
Oui.
Au vu de cet éclectisme un peu qui caractérise votre parcours, est-ce qu'on peut dire, en ce qui vous concerne du moins, vous nous direz, Cyril et Coraline, si vous êtes d'accord, qu'un bon comédien, il se doit d'être à multiples facettes?
L'autre fois, dans le stage BTS, là, il y a un jeune qui a dit, qui m'a posé la question, je ne sais pas si tu te rappelles, quelles sont les qualités pour être un bon comédien? Et moi, le premier truc qui m'est venu, c'est la sincérité. Voilà. J'ai pas envie de vous répondre autre chose.
Mm-hmm. Coraline, Cyril?
Ouais, j'approuve.
Bah oui, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Je suis assez d'accord. On fait avec ce qu'on est, qu'on soit comédien ou clown, on part de soi de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, à partir du moment où on est dans la sincérité...
C'est ça. Faut partir de sa matière qu'on a en soi-même, ce qu'on a à proposer, sortir un petit peu de sa zone de confort aussi, bien sûr. Et ouais, c'est avec ce qu'on a à l'intérieur de soi qu'on arrive à créer. Donc c'est vrai que cette histoire de sincérité, ouais, du coup, c'est ça, en fait.
Ouais, ça, c'est la base. Après, on peut apprendre des techniques, bien sûr.
Il y a des outils.
Ouais. Oui, mais c'est la base, quoi. Ouais.
Avec votre compagnie, vous créez aussi des spectacles. Vous en avez, je crois, 13, si j'ai bien compté, à votre actif. C'est bien ça ou pas?
Spectacle professionnel, oui.
Vous avez fait les
parce qu'après, grands yeux. Oui, non, parce que c'est le nombre de spectacles depuis 20 ans, il y en a eu un paquet, quoi.
Et vous vous apprêtez là prochainement à repartir en tournée avec votre dernière création qui s'intitule L'Enfant Sauvage. Mmh. Donc c'est un spectacle inspiré du livre éponyme de la comédienne et autrice ou auteure, je ne sais pas comment elle préfère qu'on dise, dramatique belge, Céline Delbecq. Il a été publié en 2015, ce texte. Votre spectacle, il a été mis en scène par Hélène Pelletier. C'est un seul en scène que vous jouez, vous, Serge Lacan, et vous l'avez présenté pour la première fois ici en Lozère en 2021. Mais c'est un texte qui, je crois, que vous portez depuis plusieurs années. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire avec ce texte?
Oui, merci de parler de ça, merci beaucoup. Ça rejoint tout ce que j'ai dit avant. La façon dont vous en parlez, déjà, je suis ému.
Ça se voit.
Parce que, oui, parce que c'est un texte pour moi qui est à la croisée de plein de choses, de ma démarche de citoyen, de militant et d'artiste. C'est un texte que j'ai entendu un jour sur France Culture en rentrant en voiture. On venait de jouer. Et j'ai été bouleversé par ce texte. C'est un texte qui parle de maltraitance auprès des enfants, qui parle de solitude d'un adulte, mais des adultes en général, voilà, qui parle de l'incompréhension et de la dérive dans laquelle on est aujourd'hui, à mon avis, c'est-à-dire que les appareils institutionnels prennent le dessus sur la singularité des êtres, qu'on considère plus comme des objets qu'on va faire acheter, objets qu'on va faire penser, plus que comme des sujets. Voilà. Et ce texte, il parle de tout ça. Et j'étais bouleversé par ça, et il y a sûrement des choses... des endroits où j'étais bouleversé dont je ne peux pas parler parce que je n'en suis pas conscient, mais en tout cas c'est un texte qui m'a bouleversé. Je me dis il faut en faire quelque chose de ça. J'ai envie de me l'approprier et d'essayer de le mettre sur scène. Voilà, d'essayer, je dis bien, de le mettre sur scène. Et je suis très content du résultat. Mais c'est deux ans de travail, d'apprentissage du texte déjà, parce que le texte est costaud. Il est costaud parce qu'il est long, c'est un monologue, donc il n'y a pas de répondant ou de partenaire. Mais aussi parce que la façon dont c'est écrit comme cet homme qui parle, qui est un homme ordinaire, il est écrit comme ça, homme ordinaire. C'est écrit comme il parle, donc avec des fautes de français, des fautes de grammaire, etc. Donc ça aussi, il faut se l'approprier. Et puis après, c'est avoir la prétention de dire ben, « je suis capable de jouer ce texte-là ». Ça aussi, c'est pas rien. C'est une prétention d'aller sur scène. C'est se la péter un peu, quoi.
Est-ce qu'il s'en sort bien jusqu'à maintenant, Coraline ?
Je suis totalement objective. Et je veux dire, évidemment, qu'il s'en sort très bien. Je l'ai vu jouer plusieurs fois et à chaque fois, j'ai la même émotion comme à la première lecture de ce texte. Vraiment, c'est fabuleux. Enfin, mais bon, après, voilà.
La radio mène à tout. En écoutant un podcast, on fait une émission de radio.
Oui, ouais, moi, j'adore la radio. J'écoute beaucoup la radio.
On peut peut-être redire un peu le pitch peut-être du livre et du spectacle. Donc ça raconte l'histoire d'un homme qui trouve un enfant abandonné. Il va s'attacher à elle. Hein. C'est une fille, si j'ai bien compris.
Faut pas le dire.
Il y a une histoire d'Alice.
Hop, alors yes, je me suis dit, il a tout dévoilé.
Mais au départ, il ne sait pas, lui. Il ne sait pas si c'est un garçon ou une fille.
On oublie.
Non, pas de soucis.
Et cet enfant, il va tenter il va essayer de s'en occuper, de l'accueillir, de l'adopter. Et c'est là qu'il va être confronté en fait à tout un système administratif hyper complexe qu'on connaît bien, notamment en France. Alors ce spectacle, vous l'avez joué dès les premières semaines de votre sortie de résidence devant un public très spécial qui correspond justement à ces professionnels du droit et de la justice. Et vous vous apprêtez là prochainement, mercredi prochain, à renouveler l'expérience. Oui. Donc ce sera à Marvejols dans le cadre de la journée des violences éducatives ordinaires. Pourquoi vous cherchez à vous adresser, à cibler précisément un public spécifique? Quels sont vos objectifs derrière ça?
Alors c'est pas ciblé, c'est-à-dire ce public-là aussi, c'est-à-dire c'est tout le grand public, hein, etc. Et j'espère pouvoir le jouer aussi devant des enfants ou des adolescents, même si c'est un spectacle difficile. Au départ, c'était pour avoir leur avis. C'est-à-dire la première fois, la sortie de résidence, on avait invité tout le personnel du tribunal de Mende, les juges, les avocats, les procureurs, enfin tout ça. Les psychiatres, les psychologues, les éducateurs, etc., des enseignants, des gendarmes, etc., tous les gens qui travaillent autour de la question de l'enfance, de la maltraitance, etc. Donc, mais c'était pas ciblé pour ça, mais c'était pour avoir aussi leur retour.
Et quels ont été ces retours?
Ils ont été fabuleux. Enfin, la première fois, moi, j'avais hyper la pétoche, quoi, parce que il y a quand même un questionnement sur le fonctionnement de toutes ces institutions, et notamment la présidente du tribunal m'a dit « Mais ce spectacle-là, il faut que vous le jouiez au tribunal. » Donc il y avait un accueil fabuleux.
Ah, super,
de sa part.
Bonne idée ça.
Ouais, et on l'a fait, on a joué.
Ah, vous avez joué au tribunal?
Ouais. J'ai joué dans plusieurs tribunaux en France.
Super.
Déjà ce spectacle-là, et chaque fois il y a un débat après.
Et
ça va du... C'est une caricature, c'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui en France, et d'autres tribunaux qui disent « Mais non, c'est tout à fait ça, quoi. » Voilà. Donc, et ça crée du débat, et c'est intéressant. Voilà. Et ce spectacle a permis... il se décline... Vous voyez, par exemple, là, on va... Coraline et moi, on va travailler dans un collège, le collège du Blémar, autour de la justice, avec des collégiens. Et on va animer pendant toute une semaine un stage théâtre autour de la justice, et avec un spectacle à la fin qui va parler de tout ça. Et dans le texte que j'ai écrit pour présenter le projet, j'ai parlé du droit et des droits. C'est-à-dire du droit qui est le cadre posé par la société, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a un cadre, et les droits. Par exemple, le droit de l'enfant, le droit des jeunes, etc. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, etc. pour les jeunes, mais aussi pour les adultes qui vivent avec les jeunes, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Voilà. C'est tout ça qu'on va travailler avec ces jeunes-là. C'est-à-dire que ce spectacle, il peut se décliner de plein de façons. Voilà. Dans des débats, après le spectacle, et puis dans des ateliers qu'on peut faire aussi.
Du coup, vous avez eu la chance de rencontrer l'auteur, Céline Delbecq, ou pas ?
Oui.
Oui ? Ah, super.
Oui. Je l'ai rencontré l'an dernier, j'ai joué au Festival d'Avignon. Deux fois.
Oui, j'ai joué. Cette pièce-là ?
Oui, deux fois, j'ai déjà joué au Festival d'Avignon, et j'ai rencontré Céline Delbecq. Il y avait une... puisqu'elle venait présenter un nouveau texte qu'elle a écrit, dont j'ai oublié le titre, et elle venait présenter ça dans un débat avec des metteurs en scène, etc. Et moi, j'étais convié à cette rencontre, voilà. Donc, on a pu échanger autour de ce travail que nous avons fait.
Elle a pu venir voir la pièce ou pas?
Alors, elle devait venir, elle n'a pas pu venir parce qu'elle a été pris par d'autres. Oui, bien sûr, j'aurais bien aimé, ouais.
Ben oui, j'imagine.
Et par contre, il y a le directeur des éditions Lanzmann, puisqu'il a édité aux éditions Lanzmann, qui est venu voir la pièce.
Super. Voilà.
Qui a aimé et qui m'a juste fait un seul reproche parce qu'il est belge et qu'il y avait un mot belge que je prononçais pas bien, quoi.
C'est lequel ? Prononcez-le, s'il vous plaît.
Stomp. Stomp, que je prononçais stomp. Stomp, c'est un plat belge qui ressemble à notre bœuf bourguignon français, quoi. Voilà. À notre daube. Le spectacle n'est pas une daube.
Du coup, c'est votre actualité proche, ça. C'est quoi, après, l'actualité de la compagnie dans les semaines ou les mois qui arrivent ?
Alors... Tu veux bien parler ?
Allez, Coraline.
J'ai pas forcément tout en tête. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets. Dans les mois à venir, on reconduit comme chaque année le festival en juin 1, 2, 3 Bazar, qui nous permet de réunir les personnes qui souhaitent venir. On accueille tout le monde, je le dis, parce qu'on n'a pas les contacts de tout le monde en Lozère. Donc tous ceux qui pratiquent du théâtre en Lozère peuvent nous envoyer un mail ou nous appeler et nous dire on est dispo au mois de juin, on a bien envie de jouer. C'est un partenariat avec la mairie de Mantes qui est renouvelé chaque année. Ils nous mettent l'espace des anges à disposition. Donc c'est super de pouvoir produire des créations théâtrales dans un vrai théâtre quand on vient d'atelier théâtre
et de permettre aussi qu'il y ait des échanges, c'est-à-dire que les gens voient les autres travailler. C'est aussi ça, l'enrichissement et qui peut faire évoluer, faire avancer.
Oui, c'est des rencontres de théâtre. L'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse voir les spectacles les uns des autres. C'est un vrai partage et un enrichissement. Et puis on a le Festival du Clown fin août qui sera reconduit pour sa 5e édition à Barjac.
C'est encore très bien marché cette année, Festival du Clown.
Ça a bien marché. Très bien, je dirais pas. Enfin, ça a très bien marché de par la qualité des spectacles et des rencontres. Mais après, le chapiteau n'était pas plein.
Ah.
Voilà. Donc c'est encore difficile. Hein. Il faut encore qu'on travaille.
Ça commence à s'ancrer à partir des retours qu'on a, mais voilà, c'est le début.
Il faut un moment pour.
C'est ça. Bien sûr. Et puis, y a un projet, mais ça, c'est peut-être Serge qui est plus à même d'en parler. Avignon, avec. oui. Mais là, je te laisse en parler.
Oui, mais puis il faudrait qu'on parle aussi de ce qui nous arrive, si on a le temps, si on a le droit, je ne sais pas, de ce qui nous arrive par rapport à notre local.
Alors, qu'est-ce qui arrive à votre local ?
Voilà, donc on est depuis 7 ans, on loue local au collège Saint-Privat. Voilà, on a un lieu super pour travailler, en gros de 200 mètres carrés. Et on a reçu une lettre début juillet, lettre recommandée, nous disant qu'il fallait qu'on parte. Voilà, parce qu'ils vont se débarrasser de ce bâtiment, puisqu'ils n'en ont plus besoin. Et donc, on va se retrouver à la rue. On devrait se retrouver à la rue fin septembre. Voilà, ce qui est passé.
Oui, c'est passé.
Ouais. Voilà. Donc, on a fait appel. On a rencontré Sophie Pantel au département. On a rencontré Laurentio. On a rencontré plein de gens pour essayer de voir si quelqu'un pouvait mettre à disposition un nouveau lieu. Voilà. Et il en existe sûrement des lieux. Jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Si, le département met à notre disposition une salle pour faire nos ateliers, mais juste une salle de réunion pour faire nos ateliers, quoi, ce qui n'est pas un lieu de vie de la compagnie comme on a actuellement, où on peut vraiment réaliser de façon correcte nos projets, nos ateliers, nos stages, etc. Voilà. Donc pour l'instant, on est... Alors, moi, j'ai pris des contacts avec les propriétaires. C'est une congrégation religieuse qui est basée à Paris. Et ils doivent nous rappeler pour nous faire peut-être une proposition une nouvelle convention. Enfin, voilà.
Par rapport à votre salle actuelle.
On peut se retrouver aussi à la rue, là, très rapidement.
Au cas où, on lance un appel. Ah, si jamais, c'est quoi le mieux ? C'est une grande salle de 100 mètres carrés pour les répétitions. Pour la vie de la compagnie.
Okay. C'est un lieu qu'on mettait aussi à disposition, par exemple, et je tiens à le dire, pour RESF, dont je fais partie aussi, Réseau Éducation Sans Frontières, et donc c'était un lieu de réunion pour ce réseau aussi. Voilà. On voulait en faire un lieu de vie. Voilà.
Ouais. Mais on va espérer que la réponse soit déjà positive de cette congrégation.
Voilà, on va voir. On va voir. Mais j'attends aussi des réponses de la mairie de Mende.
D'accord. Voilà. Ouais. Ben, l'appel est lancé. On va suivre l'affaire. Ouais. Voilà. En tant que journaliste, on va suivre l'affaire. C'est intéressant pour nous.
Ouais. Et il y avait une question, je ne sais plus laquelle.
Avignon avec les projets Avignon.
Mais je travaille à l'ESAD de Civergol à Saint-Chély avec des personnes en situation de handicap. Et le projet, ça serait d'aller l'an prochain au Festival d'Avignon avec leur création. Voilà. Donc c'est compliqué à mettre en place pour X raisons financières, institutionnelles, encore une fois. Et puis aussi par rapport à leur handicap. Quoi. Ça ne va pas être un projet sur tout le mois. Ça serait sur 3-4 jours aller jouer à Avignon un spectacle qu'on a commencé à travailler cette année, qu'on va poursuivre cette saison. Mais l'idée, ça serait d'aller là-bas avec eux. Ouais. Et voilà.
Très beau programme.
Mais parce que il y a un des membres de cet atelier qui s'appelle Hervé, je vais en parler, qui un jour m'a dit, c'est un monsieur qui bégaye, qui a du mal à parler et qui est en fauteuil roulant, et qui un jour m'a dit, moi j'ai toujours rêvé de faire du théâtre pour qu'on me regarde comme quelqu'un de normal. Voilà, il a tout dit, voilà. Et c'est aussi ça, aller à Avignon, c'est de dire, mais voyez, parce que si on va à Avignon, c'est pour présenter quelque chose de qualité, fait que moi j'estime de qualité, et qui parle d'eux, et qui parle de leur capacité à dire des choses, à exprimer des choses et à nous bouleverser dans ce qu'ils racontent. C'est ça aussi, l'art.
On vous souhaite que ça se passe comme vous le prévoyez. Là, pour l'instant, on va annoncer les prochaines dates donc, du spectacle L'Enfant Sauvage. Donc, on a parlé de mercredi prochain, le 12 octobre, donc à Marvejols. Ça sera suivi à Mende les 13 et 14. Donc, c'est à l'Espace des Anges, hein, c'est ça. Et le 15, ce sera à Saint-Chély pour, je crois, la dernière du mois d'octobre. Et après, je ne sais pas si la tournée va se perpétuer jusqu'à la fin de l'année.
Pour l'instant, on n'a pas d'autres dates. Voilà, on a des contacts pour aller travailler encore dans... jouer dans d'autres tribunaux, mais il n'y a rien de fait pour l'instant.
On va rappeler les contacts aussi, si des gens veulent s'inscrire aux ateliers.
Oui, il y a l'adresse mail de la compagnie, CIE comme compagnie, 123 soleil, pas en chiffres, en lettres, et soleil au pluriel, hein, c'est à la fin, @gmail.com. Et puis il y a nos coordonnées téléphoniques, 06 60 43 64 77.
Voilà, qu'on retrouve sur le site, sur la page Facebook.
Exactement.
Tutti quanti.
123soleil.com.
Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour cette première de la rentrée Happy Hour.
Merci beaucoup à vous. On est très contents d'être venus ici.
Et bien, c'est tout pareil pour nous. Merci Cyril, à toi également.
Mais merci.
Et on se revoit dès la prochaine.
Ouais, avec plaisir.
Avec peut-être ton bouquin ou toute autre chose.
Ouais, on verra bien. C'est surprise d'ici là.
Salut Ludo.
Ciao.
Et à bientôt tout le monde, on se retrouve dans 2 semaines, c'est bien ça, pour
un mois.
Dans un mois.
2 semaines, on a nos amis de licence Procnea à l'université qui font des émissions directes de Pollen, du pôle lausérien d'économie numérique, sur le thème du numérique, qui sont plus filmés par Lausère Développement en même temps. Voilà, c'est un autre niveau, c'est le département. Nous, petite radio associative, et ça sera sur un nouveau thème numérique dont j'ai perdu le sujet. Et nous, on vous retrouve dans un mois avec la MDL, médiathèque départementale de Lozère, qui va nous parler du mois du film documentaire qui démarrera en novembre.
Exactement.
À bientôt.
Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.